Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Micro Rebelle à l'occasion de notre chronique Vive la Commune. Pour le deuxième opus de cette chronique, nous vous proposons d'évoquer la place des femmes dans la Commune de Paris. Dans un premier temps, nous dresserons le portrait de quelques femmes, quelques communardes parmi les plus connues. Puis, en contrepoint, nous évoquerons la place des femmes communardes en général, la place de toutes les anonymes, actrices de la Commune. Enfin, nous aborderons ce que la Commune a permis ou pas en termes d'avancées sociales pour les femmes. Et nous conclurons en évoquant, concernant les femmes, les traces que la Commune a pu laisser à notre époque. Quelques portraits de communardes connus, donc, pour commencer. Difficile de ne pas mettre en avant le destin hors du commun de Louise Michel. Son portrait par l'historienne Michèle Zancarini-Fournel.
La Vierge Rouge, la nouvelle Théroigne, la dévote de la Révolution. Une louve assoiffée de sang, ou la bonne Louise. Tels sont les qualificatifs contradictoires attribués à Louise Michel, cette personnalité hors du commun. Née en 1830 dans un village de Haute-Marne, fille naturelle d'une servante et d'un châtelain, bâtarde mais élevée au château, elle apprend la musique et lit les philosophes. Elle devient institutrice et ouvre un internat à Montmartre. Active pendant le siège de Paris en 1870, elle célèbre l'insurrection parisienne du 18 mars 1871 contre Thiers et les Versaillais. Soldate, elle fait le coup de feu, vêtue d'un uniforme de la garde nationale. « Oui, barbare que je suis, j'aime le canon, l'odeur de la poudre et la mitraille dans l'air. Mais je suis surtout éprise de la Révolution », écrit-elle dans ses mémoires. Elle se bat jusqu'au dernier jour dans le cimetière Montmartre. Cachée, elle ne se livre à la police que pour délivrer sa mère prise en otage. À son procès, elle est l'une des rares à revendiquer tous les crimes et délits dont on l'accuse. Elle réclame la mort. Emprisonnée à Auberive en Haute-Marne de 1871 à 1873, puis condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie en 1873, elle devient institutrice chez les Kanaks.
Une autre communarde connue, André Léo, un portrait extrait de la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire.
Écrivaine et journaliste, Léodile Béra, Léodile Chansex après son mariage, est connue sous son nom de plume, André Léo, les prénoms de ses deux enfants. Un nom de plume masculinisé pour que ses livres soient publiés. Dans les dernières années du Second Empire, elle est militante politique. Ainsi, en 1868, c'est chez elle qu'est élaboré le programme de la Société de revendication des droits de la femme. Très active durant la Commune, elle est cofondatrice du journal La Sociale, qui paraît du 31 mars au 17 mai. Membre de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, ainsi que du comité de vigilance des citoyennes de Montmartre, elle participa également à la commission mise en place pour organiser et surveiller l'enseignement dans les écoles de filles.
D'autres portraits de communardes, tels que nous les avons piochés dans le livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. C'est un livre écrit par Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michèle Zancarini-Fournel. On commence par évoquer la communarde Nathalie Lemel.
Nathalie Lemel est née le 24 août 1826 à Brest. Relieuse à Paris, elle fut membre de l'Internationale dès 1865. Elle a créé, avec Varlin et d'autres, la Société coopérative de restauration populaire La Marmite, dont elle était la caissière. C'est une des figures marquantes de la Commune. Elle a créé notamment l'Union des femmes pour la défense de Paris et s'est battue sur les barricades pendant la Semaine sanglante. Emprisonnée et jugée, elle a affronté le conseil de guerre avec fermeté et dignité. Elle a refusé de demander sa grâce et a été déportée en Nouvelle-Calédonie. Revenue après l'amnistie des communards en 1880, elle a été employée par le journal L'Intransigeant, mais l'a quittée après l'orientation boulangiste, anti-dreyfusarde et antisémite de son directeur, le journaliste Henri Rochefort. Elle est morte aveugle et dans la misère, dans un hospice en 1921.
Après Nathalie Lemel, Elisabeth Dmitrieff.
Elisabeth Dmitrieff, née en 1851 en Russie, avait conclu avec un aristocrate un mariage blanc, ce qui lui permit de voyager à l'étranger. Elle fit connaissance de Marx à Londres en 1870. Elle était à Paris depuis mars 1871, envoyée par Marx, déléguée à l'Association internationale des travailleurs. C'est une des fondatrices de la société féministe L'Union des femmes. Un mystère concerne la barricade des femmes de la place Pigalle, dont Elisabeth Dmitrieff aurait été la chef. Son dossier, conservé aux archives militaires de Vincennes, ne la mentionne pas. Elle est inculpée de participation à l'insurrection parisienne comme membre du comité central des femmes et condamnée le 26 octobre 1872 à la peine de la déportation fortifiée pour excitation à la guerre civile.
Un autre portrait de Communard, toujours extrait du livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Il s'agit de Eugénie Cadol.
Eugénie, dite Herminie Cadol, présente un parcours exceptionnel que l'on pourrait résumer par la formule « de la commune au soutien-gorge ». Née en 1842 à Beaugency d'un père couvreur, elle se marie à 18 ans avec Ernest Cadol, peintre en bâtiment. Un fils né, le couple s'installe à Paris où elle est ouvrière corsetière. Elle participe avec Louise Michel à l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Arrêtée en mai 1871 et emprisonnée à Rouen, elle est relaxée à la fin de l'année. Son mari, enrôlé dans la garde nationale, écope de 2 ans de prison. Elle devient trésorière du comité de soutien aux déportés de la commune. Le 10 novembre 1880, elle accueille Louise Michel de retour de Nouvelle-Calédonie. Un journaliste du Figaro écrit à cette occasion « Soutenue par 2 amis, la citoyenne Cadol et la citoyenne Ferré, Louise Michel marche en proie à une émotion violente. » En 1887, elle quitte la France et s'installe en Argentine où elle ouvre une boutique de lingerie et crée à partir d'un corset coupé le soutien-gorge, présenté aux expositions universelles de Paris en 1889 et en 1900. Elle se réinstalle à Paris et crée une entreprise de fabrication de soutien-gorge, la Maison Cadol, qui existe encore.
Un nouveau portrait de Communard, Victoire Tiner.
Marguerite Victoire Guerrier, dite Victoire Tiner, est née le 6 mars 1831 à Issoire, dans un milieu républicain bourgeois. Avec le brevet de capacité obtenu en 1856, elle ouvre une école et devient institutrice, militante de l'Internationale. En 1858, elle se marie avec un clerc de notaire, Jean Tiner, avec qui elle a 6 enfants. Le couple s'installe en 1866 dans le 13e arrondissement parisien. Elle crée une école professionnelle pour les filles et une coopérative de consommation pour les plus démunis, la Société des Équitables de Paris, adhérente à l'Internationale. Pendant la Commune, Marguerite milite au sein de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins des blessés. Le 11 avril, elle est nommée inspectrice des écoles de filles du 12e arrondissement et soutient le processus de laïcisation. S'occupant des blessés au cours de la semaine sanglante, elle est arrêtée le 26 mai sur dénonciation. Elle est relâchée après que son mari, pourtant partisan des Versaillais, a été fusillé. Condamnée par contumace à la déportation dans une enceinte fortifiée pour avoir exercé une fonction sous la Commune en tant qu'institutrice, elle réussit à gagner Genève avec ses enfants. Durant son exil jusqu'en novembre 1879, elle gagne sa vie comme gouvernante. Elle écrit 2 romans avec Louise Michel sous les pseudonymes de Jean Guettré et de Jules Paty.
Et enfin, Blanche Lefèvre.
Blanche Lefèvre est blanchisseuse au lavoir Sainte-Marie des Batignolles, dans le 17e arrondissement. Reconnaissable à son écharpe rouge et à son revolver, elle est membre du Club de la Révolution sociale, créée le 3 mai 1871 dans l'église Sainte-Marie des Batignolles et de la direction de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elle a notamment participé à la défense de la barricade de la Place Blanche en compagnie d'Elisabeth Mitrieff et de Nathalie Lemel, de l'ambulancière Malvina Poulain et de Béatrix Excoffon. Blanche Lefebvre est tuée le 23 mai 1871 à l'âge de 24 ans sur la barricade des Batignolles.
Et pour terminer,
citons enfin l'intrépide polonaise Paul Mink, née en 1839, décédée en 1901, qui cofonda le club de Notre-Dame de la Croix à Paris dans le 20e arrondissement et voyagea en province pour rallier des soutiens à la commune. Oratrice très à l'aise dans les clubs non mixtes, aux diatribes virulentes, Paul Mink prône la solidarité ouvrière et la guerre de classe.
Nous achevons donc la première partie de cette émission consacrée à la place des femmes dans la commune de Paris. Cette première partie concernait quelques communardes parmi les plus connues. Nous avons choisi de clôturer cette première partie par une pause musicale en appui sur la chanson « La danse des bombes ». C'est justement un texte de Louise Michel et c'est une chanson du sacrifice et de la solidarité jusqu'au bout. C'est la chorale des 100 noms de Nancy qui l'interprète et c'est un enregistrement mis à disposition par le numéro spécial de la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire, le numéro spécial consacré aux 150 ans de la Commune de Paris. La danse des bombes, parole de Louise Michel, interprétation, la chorale des 100 noms de Nancy.
Oui, barbare je suis, oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami dans son.
La danse des bombes, car la bombe aussi les lions, le tonnerre, la bataille, compte sur nous, ami, chantons,
ami, dansons.
La danse des bombes, car la bombe aussi les lions.
La voix frappant la voûte et l'orgueil qui perd ses dents.
La danse des bombes, regarde la voûte aussi les noms. Le tonnerre de la bataille monte sur nous, amis chantons.
Amis dansons.
La danse des bombes, regarde la voûte aussi les noms. Le tonnerre de la bataille monte sur nous, amis chantons.
La nuit est écarlate, crampez y vos drapeaux, aux enfants de
de notre chronique consacrée à la place des femmes dans la Commune de Paris. Pour cette deuxième partie, nous évoquons la place des femmes communardes en général, la place de toutes les anonymes, actrices de la Commune. Le témoignage qui suit est extrait d'un article de Michèle Audin, animatrice du site macommunedeparis.com et publié dans le numéro spécial de Politis, consacré aux 150 ans de la Commune de Paris.
On les retrouve plus actives et plus nombreuses pendant le siège de Paris, de septembre 1870 à janvier 1871. Des femmes manifestent, réclament des armes, participent à des comités de vigilance républicains, travaillent dans les ambulances, s'engagent comme leurs maris, fils, frères et pères, comme leurs voisins, dans leurs bataillons de la garde nationale, souvent des bataillons de quartier. Elles y sont cantinières ou ambulancières. De façon presque anonyme, comme la citoyenne Yorinsky, cantinière, dont nous n'avons même pas le prénom, du 63e bataillon à Belleville. Davantage qu'aux réunions publiques de l'Empire, des femmes des quartiers populaires participent à des réunions de clubs rouges, ce dont témoignent les comptes rendus des journaux, de façon souvent plus méprisante pour les citoyennes que pour les citoyens. Ce sont elles aussi qui font la queue, de longues heures durant, dans le froid, pour quelques grammes de nourriture de mauvaise qualité. Comme la plupart des Parisiens, les femmes vivent ensuite l'après-siège dans l'amertume de la capitulation, avec un peu plus de pain de meilleure qualité, mais la persistance du chômage. et voici le 18 mars. Ce qui ressemble le plus à une insurrection ce jour-là, ce sont des femmes de Montmartre qui le déclenchent. Parce qu'elles se sont levées tôt, parce qu'elles voient les soldats monter sur la butte, elles lancent l'alerte, apportent à manger et à boire. Les soldats mettent crosse en l'air. Elles font ainsi échouer la tentative de Thiers de récupérer les canons de la garde nationale. Elles sont plus nombreuses le 28 mars, place de l'Hôtel de Ville. Même si les dessinateurs qui envoient leurs images aux journaux omettent de les représenter, dans la joie de la proclamation de la Commune et dans la fête qui suit, les retraites aux flambeaux, les bals de quartier. Car elles sont dans le mouvement politique. Ainsi, elles réagissent immédiatement à la guerre que Versailles déclare à Paris dès le 2 avril. Un groupe de femmes, la presse s'en fait l'écho, envisagent de se rendre à Versailles. D'autres, cantinières et ambulancières, participent le 3 avril à la catastrophique sortie torrentielle de la garde nationale contre Versailles. Beaucoup sont tués ou emmenés comme prisonnières à Versailles. Les femmes présentes dans chaque bataillon étaient environ un millier. Bien d'autres participent à la vie politique de ce printemps. Elles fréquentent massivement les clubs, féminins ou pas, qui réunissent tous les soirs des milliers de personnes, souvent dans des églises. C'est la partie la plus originale de cette révolution foisonnante. Ici, la parole est libre.
Et puis, concernant les femmes investies dans la Commune de Paris, on trouve régulièrement des écrits concernant les pétroleuses. La pétroleuse, c'est un de ces rôles fantasmés, emblème honni d'une féminité déviante. Inventé par les ennemis de la Commune, armée d'une canette de pétrole, c'est elle qui aurait incendié nombre de bâtiments pendant la semaine sanglante, dans le seul but de semer l'anarchie. Cette figure sert à dénier aux femmes la capacité de se battre dans les règles de l'art, car incapables de tenir un fusil. En réalité, parmi les incendies de la Commune, un seul a été revendiqué par une femme. Alors le temps passe très vite et nous voilà déjà à la troisième partie de notre émission concernant ce que la Commune a permis ou pas en termes d'avancée sociale pour les femmes. Extrait d'une interview de Serge Kibal pour Alternative Libertaire. Serge Kibal est l'auteur d'un mémoire d'histoire intitulé « Le type du Versaillais à travers la presse de la Commune ». Alors première question, dans quelle mesure la Commune a-t-elle permis des avancées sociales pour les femmes ?
Il n'y a pas vraiment eu de droit accordé par la Commune aux femmes, hormis un décret prévoyant des pensions aux veuves de combattants indépendamment de leur régime marital. C'était une reconnaissance explicite de l'union libre, l'un des enjeux féministes de l'époque. Mais le plus important est celui du travail domestique. Un exemple. Le 3 avril 1871, un club de femmes organise une manifestation accompagnée d'enfants. Le travail domestique, dont l'éducation des enfants, continue donc d'être perçu comme l'apanage des femmes, y compris chez les militantes. L'union libre, dans ce cadre, est un début de reconnaissance des femmes comme individus libres. Elles n'obtiennent pas d'autres droits, et notamment pas le droit de vote, malgré des revendications lors des élections du 28 mars.
Deuxième question, quel rôle, au pluriel, ont endossé les femmes sous la Commune ?
Du côté institutionnel, tout bonnement, aucun rôle. Pas d'élu à la Commune, pas de fonction administrative. Tous les postes sont masculins. Elles sont aussi absentes de la garde nationale. En revanche, plusieurs participent à la commission de l'enseignement dirigée par Édouard Vaillant, avec la volonté d'étendre l'éducation à toutes les filles, ainsi qu'aux tout-petits, même si c'est avec l'idée d'une garderie qui délesterait les femmes d'une partie du travail domestique. Sur un autre plan, l'immense majorité des témoignages convergent pour dire que la prostitution n'avait quasiment plus cours sous la Commune. Ce thème a pourtant été largement utilisé par les détracteurs de la Commune pour dire que c'était l'anarchie dans Paris. Alcoolisme, crime, prostitution. Or, pour plusieurs raisons, la criminalité fut très faible, voire inexistante, pendant la Commune.
Notre émission touche maintenant à sa fin, et en quatrième et dernière partie, nous nous proposons d'évoquer les traces que la Commune a laissées à notre époque concernant les femmes et les luttes de femmes. Nous nous appuyons sur un texte de Mathilde Larrière, historienne, publié dans le numéro spécial de Politis, consacré à la Commune.
En ce jour de mars 1971, la Commune a 100 ans. Les femmes en mouvement entament dans la gaieté et la détermination leur année zéro. Peut-être feuillettent-elles quelques histoires du soulèvement parisien. Peut-être s'énervent-elles de constater combien l'histoire en est écrite au masculin. Sur le coin d'une table, elles esquissent alors les premiers vers de ce qui sera leur hymne. Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. L'anecdote est réelle. C'est lors d'une réunion pour préparer le rassemblement du MLF en mémoire de la Commune de Paris que l'hymne des femmes fut rédigé. Et elle l'entonne pour la première fois au square d'Issy-les-Moulineaux le 28 mars 1971 pour rendre hommage aux communardes. Sur le tract d'appel à ce rassemblement, on pouvait lire « Femmes de Paris en avant. Paris est une ville-prison où les femmes sont affichées, achetées, rejetées, agressées, ignorées, exploitées. Paris est une ville-terreur où nous n'osons pas nous aventurer seules quand la nuit tombe. Pourtant, les femmes prennent leurs fusils pour défendre le fort d'ici. C'était hier, pendant la Commune. Pourtant, les femmes prennent la parole pour dénoncer leur oppression. C'était hier, pendant la Commune. Les 3 mois de la Commune ont été un moment privilégié pendant lesquels les femmes se sont battues pour leurs droits. Aujourd'hui, nous voulons faire que ce qui a été un moment soit la réalité de tous les jours. »
Et puis, un peu plus loin, Mathilde Larrère évoque les luttes des femmes depuis 1974 et jusqu'en 2020, des luttes dans lesquelles le mythe des pétroleuses n'est pas absent. Alors on commence par 1974.
En mars 1974, un nouveau journal féministe paraît. Il porte le titre « Les pétroleuses », le journal des femmes qui luttent. Il émane de la tendance lutte de classe du MLF, proche de la Ligue communiste révolutionnaire. Sous le titre « Un slogan », elles ont fait de leur jupon un drapeau rouge. Ces 9 numéros, jusqu'à décembre 1976, dénoncent les oppressions, les violences, les discriminations, appellent à l'organisation autonome des femmes, à la grève du travail domestique, du travail salarié, du travail scolaire, suggèrent, par exemple, de déposer les tas de linge sale devant les mairies.
Et puis en 2020 ?
Le 7 mars 2020, lors de la manifestation féministe nocturne qui rassemblait les groupes les plus radicaux, les plus intersectionnels, une jeune fille brandissait une pancarte sur laquelle était inscrit, en lettres de feu, « Descendante de pétroleuse ».
Cette émission se termine. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que chaque semaine, jusque fin mai, nous nous consacrons à une thématique concernant les 150 ans de la Commune de Paris. À la semaine prochaine donc. Portez-vous bien, bye bye.